Cette semaine, je vais poursuivre dans une série qui s'intitule L'amour de Dieu, virgule, une alliance. La semaine passée, on a fait un crochet autour d'un autre sujet qui était l'importance de la connaissance de Dieu. Puis je voudrais quand même repartir de cette idée-là, juste en donnant une idée vraiment, vraiment simple. Juste pour que ça nous reste étampé clairement dans notre mémoire. C'est qu'on ne peut pas marcher avec Dieu et rendre ça efficace et réellement pertinent sans une connaissance solide et profonde de la personne de Dieu. Et or, le problème, je pense que dans notre monde évangélique actuel, on tend à marcher avec Dieu en périphérie de qui il est. On prend pour acquis qu'on sait. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est la Trinité, qu'est-ce qui est le caractère de Dieu. On prend pour acquis que c'est comme un savoir qui est comme un peu inné, comme si on l'avait en devenant chrétien, né de nouveau. Et vraiment pas. La connaissance de la personne précise de Dieu, d'approfondir cette réalité-là, ça vient tout affecter le reste. Et surtout, ça vient affecter le sujet dont il est question aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Et croyez-moi, si vous ne savez pas qui est exactement celui qui vous a aimé, bien, ça va affecter votre façon de comprendre son amour pour lui. Et surtout, son amour pour vous. Et si votre compréhension de l'amour de Dieu pour vous est affectée par une méconnaissance de la personne qui dit vous aimer, eh bien, ça vient affecter vos rapports humains aussi. Tout est lié ensemble. Puisqu'on est appelé à aimer les hommes et les femmes de ce monde, non pas d'un amour naturel, mais d'un amour qui vient de Dieu déposé dans nos cœurs, eh bien, si notre compréhension de la personne de Dieu n'est pas nette, son amour ne sera pas net et notre message ne sera pas net. Donc, connaître la personne de Dieu, ça affecte notre compréhension de son amour, ça vient affecter notre témoignage, ça vient affecter notre message, ça vient affecter la façon avec laquelle on prie. Ça affecte absolument tout. Donc, c'est pour ça qu'on veut insister beaucoup, à partir du mois de janvier, à travers des groupes maisons, à s'intéresser à la doctrine de Dieu. Une des réalités très importantes concernant l'amour de Dieu, et spécialement dans notre génération, je pense que c'est un trouble important que cette affaire-là, c'est que on comprend l'amour, et je sais que je dis ça souvent, mais je vais continuer à le dire souvent parce que c'est majeur, c'est qu'on comprend l'amour dans notre génération à travers l'idée d'une émotion et des sentiments. Donc, on se sent aimé. Nous, c'est dans les sensations que la réalité de l'amour est perçue. Alors que l'Écriture va beaucoup plus loin que ça et beaucoup plus profond que ça. Et c'est cette profondeur-là, souvent, qui nous manque. Vous savez, si vous considérez les relations hommes-femmes, par exemple, juste à travers les sentiments et les émotions, c'est comme ça un peu aujourd'hui que ça se vit pour beaucoup de gens, c'est que un gars va dire à sa copine, « Écoute, on n'a pas besoin de s'engager dans le mariage. » Pas besoin de faire d'alliance, on sait qu'on s'aime. Cette façon de comprendre la relation, c'est qu'on est en train de dire, on sait que moi puis toi, c'est juste une question de sentiment. Une personne qui parle de cette façon-là ignore ce que c'est l'amour en réalité et ignore ce qu'est l'amour dans un monde déchu. Le problème, c'est que s'il est vrai que l'amour, c'est d'abord un sentiment, puis une émotion, puis c'est d'abord tout ça, on doit comprendre que le problème avec ça, c'est que si on bâtit là-dessus, notre relation va durer le temps que les sentiments et les émotions durent. Or, si vous avez vécu un peu, vous savez très bien que tout dans ce monde vient agresser nos émotions et nos sentiments. Notre affection. Il y a tout pour venir perturber ça, pour venir nous détourner, pour venir attaquer ça, pour venir contredire. Et il y a tout à l'extérieur de nous et il y a tout à l'intérieur de nous. On peut être soi-même l'agent destructeur de nos propres relations humaines. Pourtant, cette personne avec qui on est, nous l'aimons et elle nous aime. Mais on est capable de détruire ça. On est capable de laisser détruire ça. La raison de l'engagement et d'une alliance, appelée le mariage, c'est de mettre en dehors de soi une structure plus forte que juste l'émotion, le sentiment. C'est une membrane plus solide qui nous permet, dans les bons comme dans les mauvais jours, d'être capable de persévérer quand même, malgré tout, bien que je sais qu'il y a des situations exceptionnelles qui font que ce n'est pas possible. Ce n'est pas une utopie, ce que je suis en train de vous dire là, mais de savoir qu'il y a quelque chose de plus. Il y a une alliance qui nous fait tenir le coup aussi. Donc, lorsque Dieu nous manifeste son amour en Jésus-Christ, il ne le fait donc pas strictement à travers des émotions et des sentiments. Non pas que Dieu, lui, dans ce qu'il est, dans sa personne, ne serait pas fidèle. Lui, c'est clair qu'il est fidèle. Lui, c'est clair qu'il ne se laissera pas perturber. Lui, c'est clair que son amour pour nous ne variera jamais. Donc, le problème n'est pas en Dieu, il est en nous. Notre problème à nous, c'est que l'amour que Dieu a pour nous ne variera jamais, mais notre connaissance, notre certitude de cet amour-là, ça va varier à cause de quoi encore? Parce qu'encore là, extérieurement, plein de choses vont venir perturber cette affection-là, cette relation affectueuse qu'on a avec Dieu. Nous-mêmes, par nos faiblesses humaines, par nos péchés, on va être mis dans le doute continuellement. Et c'est très complexe, cette question-là. Comment on fait pour avoir de l'assurance dans l'amour de Dieu? Donc, la première façon de le dire, c'est que Dieu ne nous a pas aimés en parole seulement, mais il nous a aimés à travers une alliance. C'est pour ça que le mariage est extrêmement important. Il doit être honoré, pas strictement pour des raisons de fidélité humaine, mais parce que vos mariages sont l'image de Dieu et de son épouse qui est l'Église. Dieu va marier son Église. Il y aura des noces et vous serez là à ces noces. Donc Dieu va certifier par contrat que son amour pour nous, pour son Église, donc pour vous et moi, est d'une qualité éternelle. Et en ce moment, on est déjà, en tant qu'Église, en train de vivre pleinement cette réalité-là. Donc, s'il y a des jours où on ne se sent pas aimable, et on sait que ces jours-là sont fréquents dans nos vies, ça ne change rien à l'alliance que Dieu a traitée. Dieu, lui, reste fidèle, comme le chant le disait. Donc, retournons dans Jean chapitre 17. L'amour de Dieu pour nous vient du Père, par un médiateur. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre une affaire qui vaut vraiment la peine d'être comprise. C'est un peu une mécanique. Personnellement, je reconnais avoir passé au-dessus de ça souvent sans trop me rendre compte que c'était pourtant vraiment écrit là. Et soit dit en passant, l'évangile de Jean, c'est un évangile depuis quelques années que je découvre avec stupéfaction. Je n'avais pas réalisé, pourtant ça fait longtemps que je lis la Bible et ce livre-là en particulier aussi, je n'avais jamais réalisé de la richesse, les trésors qui sont dans cet évangile-là. De quelle façon Jean, l'apôtre, à travers des phrases, des fois, qui ont l'air de dire pas grand-chose, et que si on s'y attarde juste un peu, on se rend compte que, on dirait que chaque phrase est mastiquée, réfléchie, il y a une réalité théologique extrêmement forte et riche derrière chacune de ces déclarations-là. Je lisais tout à l'heure, durant la Sainte-Cène, Jean 17. Écoutez, si on lit ça vite, puis qu'on le lit assez vite tout à l'heure, à un moment donné, ça devient presque étourdissant. Mais si on prend le temps d'étudier chaque point de ce texte-là, c'est d'une richesse incroyable. Et ici également, verset 24, « Père, je veux ». J'avais terminé il y a deux semaines le message dans cette série-là sur ce texte-là. « Père, je veux ». On doit juste réfléchir à ces trois mots-là. « Père, je veux ». « Moi, le Fils, je veux ». Alors, qu'est-ce qu'il veut? Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Vous avez juste dans ce court texte-là la volonté de Jésus-Christ qui s'exprime sur la sécurité éternelle du salut. Dites-moi qu'on peut perdre ce salut juste après avoir lu ce texte-là. Est-ce que quelque chose peut s'opposer à la volonté de Dieu? Pas vraiment. Même pas vous. Mais ça, ça se peut que vous ne le sachiez pas. Mais plus on étudie l'Écriture et plus le temps passe, ça devient une réalité. Vraiment. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. J'aimerais que vous mettiez un highlight sur cette déclaration-là. Le monde ne t'a point connu. Pourquoi? Pourquoi le monde n'a point connu le Père? Et là, vous avez un peu cette juxtaposition des personnages dans la Trinité. Dans Jean, c'est extrêmement important. Dans Jean 14, il était question du Saint-Esprit qui allait venir révéler, rendre ça vivant, la nouvelle vie. Le Saint-Esprit réapparaît dans Jean chapitre 16. Et ici, on est dans Jean 17. Et là, vous avez cette fameuse déclaration où Jésus va dire, « Père juste, le monde, ce monde, ne t'a point connu. Le verbe « connaître » est important ici. C'est ginosko, souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Et là, je ne me souviens plus si c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, j'avais parlé du mot hébreu « yada ». Vous vous souvenez de ça? « Yada », connaissance, rencontrer. On disait de quand Adam a connu Ève en rapport avec l'intimité sexuelle, c'est « yada ». Eh bien, le verbe « connaître » en grec, c'est un peu son correspondant en grec. C'est-à-dire, c'est pas juste connaître superficiellement, c'est une rencontre intime, une connaissance de Dieu. Donc, c'est de ça dont il s'agit ici. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu. Fait que ça fait beaucoup de verbes « connaître » en peu. C'est incroyable le nombre de fois. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître, encore connaître, ton nom. Et je leur ferai connaître, encore connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Écoutez, une constatation qui saute aux yeux, mais qui en même temps nous échappe. Évidemment, c'est le nombre de fois que le verbe « connaître » est utilisé. Mais il est utilisé en rapport avec à la fois Dieu le Père, puis à la fois avec l'amour. Et ça nous fait comprendre ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de l'amour, c'est que pour Dieu, la communication de l'amour, c'est pas d'abord une question de simplement nous envoyer une vague émotive. Bien que ça, ça se peut. Puis bien que ça, c'est béni quand ça arrive. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on bâtit nos vies. Ça, c'est peut-être des événements, des fois, dans nos vies, dans notre communion avec Dieu, qui vient peut-être rassurer. Hein? Dieu, des fois, va nous envoyer quelque chose que rassurer, fortifier dans des insécurités dans lesquelles on est. On demande ça à Dieu. Tu sais, Dieu, visite-moi, fais quelque chose. Je te sens plus, je te vois plus, tu n'es plus là, puis bon. Mais ici, dans le discours de Jean, Jésus est en train de dire, je leur ferai sentir ton amour, mais le faire connaître. Donc, ça signifie qu'on est ailleurs et le moyen par lequel le Fils propose au Père, il dit, je veux, hein, ça a commencé par je veux, c'est qu'il va dire, pour que ton amour puisse habiter en eux, il va falloir que moi, j'habite en eux. Vous aviez dans l'Ancien Testament une image très forte sur cette question-là, c'était par le mot tabernacle. Il ne faut pas le prononcer en québécois. En québécois, ça veut dire autre chose. Mais il y avait cette idée que Dieu habitait parmi son peuple. Il tabernaclait à travers son peuple. Et vous avez toute l'histoire de la gloire Shekinah aussi. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez ça, Dieu vient habiter, mais il vient comme habiter son peuple. On dirait que c'est comme en périphérie de son peuple. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que maintenant, moi, personnellement, Père, tu vas m'amener à les habiter, eux. Je vais tabernacler en eux. C'est quelque chose qui nous échappe, qui est extraordinaire à réaliser, à comprendre. Donc, nous sommes, par la chute, séparés de Dieu et privés de la gloire de Dieu, et donc incapables de saisir naturellement l'amour de Dieu. Je vous avais dit de mettre un highlight sur la déclaration « Le monde ne t'a point connu ». Derrière cette déclaration-là, il y a toute une idée, là. Ce n'est pas une phrase comme ça en passant, là, que Jean lance comme ça dans sa lettre, dans son texte. Il est en train de dire « Le monde ne t'a point connu ». En fait, le monde, ce monde, ne peut pas, dans ta forme de Dieu, te connaître. Il ne peut pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Non. La chute. À la chute, Dieu et l'homme ont été séparés. L'homme, depuis la chute, est séparé de Dieu. Je sais qu'on ne le croit pas tous de la même façon, mais on est séparé complètement de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, dans sa forme d'homme pécheur, ne peut pas rencontrer Dieu, le Père, dans sa forme de Dieu. Chez les Hébreux de l'Ancien Testament, c'était évident. Quand Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, pense qu'il va rencontrer Dieu, sa réaction, c'est « Je vais mourir ». On ne peut pas rencontrer Dieu et vivre. Dieu, dans sa sainteté, et nous, dans notre condition pécheresse, la connexion n'est pas possible. Quand Dieu veut nous parler, et c'est comme ça qu'a fonctionné dans l'Ancien Testament, il est toujours passé par un médiateur. À l'exception d'un seul homme, Moïse, Dieu a rencontré cet homme-là face à face dans la tente d'assignation. Grâce spéciale, grâce extraordinaire. Pourquoi Moïse avait cette grâce particulière? Parce qu'il était meilleur que d'autres? Non. Parce qu'il est le prophète de l'Ancien Testament et un type de Jésus-Christ qui sera le prophète, le modèle réel de ce qu'était Moïse. Moïse en était simplement l'image. Moïse a rencontré Dieu face à face parce que le Fils connaît son Père face à face. C'est toujours une question de type et d'antitype. Maintenant, pour le reste, ce que Jésus révèle ici, c'est que, Père, personne ne peut te rencontrer. C'est impossible. Personne ne t'a connu. Et là, on rentre dans une compréhension vraiment intéressante. Vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, et c'est là qu'on voit la connivence entre Jean et l'apôtre Paul. Vous savez, actuellement, à la faculté de théologie, je suis en train de faire un travail long. Je ne suis pas le seul, il y en a qui le font aussi, sur Galates chapitre 2. C'est un travail de 20 pages qu'on doit faire. C'est très, très intéressant parce que c'est un travail qui nous amène à chercher, à comprendre c'est quoi l'évangile que Paul prêchait. Vous savez, dans Galates 2, c'est cette tension entre Pierre et Jean, Pierre et Paul, Antioche, où un jour, Paul a repris Pierre. Pierre s'était tenu à l'écart par peur des circoncis. Il mangeait avec eux. Il s'est tenu à l'écart. Et là, vous avez Paul qui tombe dessus publiquement. Puis il dit de Pierre, « Tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. » Il dit, écoutez, c'est intéressant, OK? Donc, Et Paul aux Galates et Paul aux Romains parlent souvent de son évangile à lui. Fait que ça a fait dire à certains commentateurs libéraux que Paul avait son évangile, et les apôtres avaient leur évangile, et puis il y avait une tension entre les deux. Mais c'est faux, en fait. Paul a reçu l'évangile d'une révélation de Jésus-Christ lui-même, c'est ce qu'il dit. Les apôtres ont reçu leur évangile comment? Par Jésus-Christ aussi. Mais pas au même moment. Paul n'a pas compris l'évangile après avoir rencontré les apôtres. Il ne les a pas rencontrés beaucoup. C'est ce qu'il dit dans Galates 2. C'est 14 ans plus tard qu'il est allé les voir. C'est intéressant. Maintenant, vous voyez que Paul a une compréhension de l'évangile. Et la question, c'est, est-ce que eux et les apôtres de Jérusalem ont la même? Alors Paul va dire, oui, on s'est rencontrés et on s'est compris, on s'est donné la main d'association de façon à ce que Pierre s'occupe des circoncis, les Juifs, et moi j'aille vers les incirconcis, les païens. Mais Pierre s'était quand même tenu à l'écart, ça avait créé une confusion. Pierre le reprend sévèrement. Paul, pardon, reprend Pierre sévèrement. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Paul a une compréhension de l'Évangile, et c'est intéressant de savoir que lorsque Jean, dans son Évangile, lui, va dire ce genre de déclaration, le monde, Père, ne t'a point connu, et la seule façon pour le monde de pouvoir connaître le Père, et là, c'est évident quand on y pense, pour que le Père puisse aimer l'homme, il faut qu'il se place dans une condition d'homme. Dieu a aimé le monde en devenant homme. Parce que le monde ne le connaît point, parce que le monde est séparé de lui, si Dieu se fait homme, alors là, ça devient possible. Donc, l'amour du Père nous est communiqué par un homme, Jésus-Christ, mais qui est Dieu aussi. C'est juste génial quand on y pense. Et donc, ce que Paul raconte ici aux Corinthiens, c'est la même idée. Il va dire, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc ici, Paul n'est pas en train de parler de votre condition de chrétien qui, des fois, vous êtes spirituel. Là, ça marche, la connexion ouvre. Vous savez, c'est un peu le Wi-Fi. Des fois, tu as le code, ça marche. Et d'autres fois, ça se pitonne, il n'y a rien qui marche. Donc, ce n'est pas ici, dans l'exercice de la vie quotidienne, en voulant dire, quand je suis animal ou l'homme naturel, Non, il est en train de parler de deux conditions. L'homme, dans sa condition naturelle, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'on soit d'accord ou pas, change rien. Le mot l'homme animal, c'est un mot, et là, je ne suis pas un spécialiste du grec, là, vraiment pas, mais il y a juste quelque chose d'intéressant, c'est que l'apôtre Paul utilise l'homme animal, un mot qui est psupsychos, de psyché, souffle de vie. Fait qu'il est comme en train de dire, l'homme qui tient un souffle naturel ne peut pas recevoir le souffle Esprit de Dieu, c'est aussi pneuma, un autre souffle. Donc, il y a deux souffles possibles. Celui qui a donné la vie naturelle, mais qui est condamné par la chute et par le péché, ou cet autre souffle qui vient de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, pour l'homme naturel, les choses de Dieu sont une folie. Il ne peut pas les connaître, verbe connaître encore, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et le mot « juge » ici, c'est « examiner ». Comment on peut examiner, saisir, discerner les choses de Dieu si on n'a pas cette nouvelle vie, la nouvelle vie en Jésus-Christ? Mais ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de pouvoir. On ne peut même pas. Donc, je voulais juste montrer que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean s'accordent sur cette idée-là que l'homme naturel ne connaît pas Dieu. Et ce que Jésus dit dans sa prière dans Jean 17, c'est exactement la même idée. Le monde ne t'a point connu. Donc, ça explique pourquoi donc Jésus est en train de dire à son Père, la seule façon qu'ils vont pouvoir te connaître et connaître ton amour, c'est que moi, je descende ici et que moi, je leur fasse connaître ton amour. Et c'est comme si l'amour de Dieu nous venait par des voies humaines produites par Dieu. Dieu, le divin, dans un corps humain, a réussi à nous atteindre par son amour. En gros, l'idée. C'est une façon de dire que l'amour du Père ne peut être en nous que si le Fils, qui est l'incarnation de l'amour de Dieu, vient habiter en nous. Ce texte nous apprend essentiellement que notre connaissance de l'amour du Père ne vient pas de notre capacité naturelle à la concevoir, l'amour de Dieu, ou de concevoir l'amour de Dieu, mais cet amour est révélé par la vie du Fils qui habite en nous. Cela explique aussi pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Mais, Jean 3,16, c'était Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus t'en dit, oui, mais le monde ne t'a point connu. C'est le même évangile, l'évangile de Jean. Pas de contradiction. Donc, Dieu a tant aimé le monde que la seule façon qu'il avait de pouvoir manifester à ce monde, donc à vous et à moi et à ceux qui l'ont racheté son amour, c'était comment? En donnant son Fils. Donc, en faisant de son Fils un humain. Donc, ça explique pourquoi Dieu, si Dieu a tant aimé le monde, ce monde qui ne l'a point connu, il a fallu qu'il donne son Fils sous la forme d'un homme, car pour aimer l'homme, Dieu doit se faire homme. Intéressant. Allons dans Philippiens chapitre 2. Parce que si on continue à gratter cette idée-là, on va se rendre compte qu'il y a une richesse encore plus grande qui suit. Donc, si Dieu doit se faire homme pour aimer les hommes, petite tonne qui joue dans ce coin-là. OK, merci. Alors, pour aimer l'homme, comme on dit, Dieu doit absolument devenir un homme. Retenez cette idée-là. Je vais exagérer, je vais la répéter encore, parce qu'il y a comme un punch qui s'en vient. Si Dieu veut rejoindre l'homme pour lui communiquer son amour, il faut qu'il le fasse dans une forme d'homme. On comprend ça. Donc, Dieu devient homme complètement dans la réalité de l'homme, et pas seulement homme en forme d'homme, il prend la misère de l'homme, le péché de l'homme sur lui, complète association à la condition. Il prend cette condition pécheresse en tant qu'homme, et en tant qu'homme, il est cloué à la croix, il fait le sacrifice. Chose unique au Fils de Dieu, c'est que puisqu'il est lui-même non pécheur, la mort ne peut pas le retenir. Mais la mort peut retenir nos fautes. Fait qu'il ressuscite sans nos fautes. Et dans quelle sorte de corps il ressuscite? Vous souvenez-vous? Pardon? Un corps glorifié. Mais curieusement, et ça, je ne peux pas vous en parler trop longtemps, je ne l'ai pas vu, mais il est né dans un corps glorifié d'homme. Ils l'ont vu. Ils ont touché. Je pense qu'il passe à travers les murs, ce corps-là. C'est intéressant. Bon. On va peut-être se tanner vite, parce qu'on va avoir un corps comme ça. On va s'amuser un peu les premières journées dans notre éternité. S'amuser avec la nouvelle bête. Non, je pense pas qu'on va vivre ça de même. Ça ne peut pas être épais comme ça, notre affaire. On va tomber dans une autre réalité. Il me semble que tout ça, ça va être... Mais bref, c'est quand même intéressant de savoir que Dieu, pour nous aimer et nous pardonner, il doit absolument le faire dans un corps d'homme. Mais si c'était juste pour nous pardonner, ça ne donnerait pas grand-chose. Il faut qu'il y ait une suite à ça, et la suite, c'est le corps glorifié. Et c'est pour ça que Philippiens, l'apôtre Paul, encore là, en parfaite harmonie avec Jean et les autres apôtres, va dire ceci en parlant de Jésus-Christ, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une autre forme, laquelle, celle d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 2 ans, quelque chose que j'avais... C'était trop évident pour m'en rendre compte avant. Il dit, « Savais-tu que le Fils de Dieu est toujours un homme en forme d'homme au ciel en ce moment? » C'est sa nouvelle réalité éternelle. Je dis, ah ouais, une minute, là, c'est... Oui, hein? Ça peut-tu? C'est... Il n'est pas retourné dans sa forme divine en se disant, OK, c'est fini, c'est réglé. Et ce théologien-là, ce qu'il expliquait, il est devenu homme, là, lui, là. C'est ça. Ou, comme nous rappelait le vieux chant de Richard Toupin qui disait que la seule chose au ciel qui va rappeler la terre, c'est quoi? C'est les traces, les trous dans les mains de Jésus. Effectivement. Donc, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Oui, vraiment, Paul le développe avec une clarté foudroyante. Dieu a dû prendre une forme d'homme et apparaître comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans la même lettre aux Philippiens, au chapitre 3, parce que je ne vous dirai pas la fin du chapitre 2, pour se rendre jusqu'au 3, ça serait long. Mais toute l'idée culmine avec le verset 21 du chapitre 3, dans lequel il va dire, « Mais qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Paul, dans sa lettre aux Philippiens, regardez, « Il transformera le corps de notre humiliation » en le rendant semblable à quoi? Au corps de sa gloire. Par quel pouvoir? Ben celui qu'il a de s'assujettir toute chose. Donc, si un jour vous allez, pas si, mais lorsqu'un jour vous allez entrer dans la présence de Dieu, ça va être dans un corps glorifié. Qu'est-ce qui rend ça possible? Vous? Non. C'est rendu possible par Christ qui, pour aimer l'homme, a dû le faire dans un corps d'homme, pour se sacrifier pour le péché du monde, l'a vécu dans un corps d'homme, et qui, par la mort et la résurrection, ressuscite avec un corps glorifié. Et maintenant, ce corps glorifié nous est associé complètement. Donc, c'est comme si c'est une histoire de corps. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On va terminer par 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 19. C'est comme s'il y avait une rafale de conséquences à toute cette idée-là. Une des conséquences les plus, peut-être les plus lointaines et dans laquelle on est appelé à entrer, c'est que Dieu nous a aimés. Et ça rend compte d'une expression très importante chez Jean. Dieu nous a aimés le premier. Mais il nous a aimés le premier afin que nous l'aimions. Dieu fait de nous des gens qui l'aimons. Maintenant, je sais que là, encore là, on va se poser une question. Il me semble que je ne me sens pas que je l'aime tant que ça. Je ne l'ai jamais vu. C'est un site, il ne me bénit pas trop. Fait que, pour nous, là, c'est tout le problème. Nous, là, notre amour pour Dieu, là, notre affection, elle est variable. On est fragile. Ça, c'est une question de circonstance, là. Vraiment. Voyez-vous l'importance que Dieu ait traité une alliance avec nous Pourquoi Dieu traite-t-il une alliance? Est-ce que c'est pour se rassurer, lui, que son amour va être durable? Non, non, non. Dieu traite une alliance avec nous parce que c'est nous qui sommes fragiles. Donc, si on connaît mal son alliance, on connaît mal notre assurance de l'engagement qu'il a pris envers nous. Ce qui revient à ce que je disais complètement au début du message, si on ne connaît pas le Dieu, le caractère, le cœur, la personne de ce Dieu qui nous a aimés, bien, ça vient affecter notre compréhension de son amour. Connaître Dieu, le connaître vraiment lui, Jean 17,3, c'est ça la vie éternelle. Le reste, c'est des pacotilles, là. Si ça, c'est pas bien intégré à nos vies, le reste, on le fait en vain, ou presque pour rien. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour aller chercher sa faveur, pourtant. Et là, tu disais, ben non, mais tu n'as pas besoin de venir chercher ma faveur, tu l'as déjà reçu. Oh oui, mais Seigneur, je vais être sûr, je vais me rassurer moi-même, faire plein de bonnes choses. Et là, on passe à côté peut-être du plan de Dieu, parce qu'on cherche à faire un paquet de choses pour essayer d'aller chercher sa faveur. Bon, tant mieux si c'est des bonnes choses qu'on fait, pareil, c'est pas perdu, mais c'est pas humainement perdu. Mais il faudrait que quelque chose se calme. Il faudrait que quelque chose vienne se calmer dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre intelligence renouvelée, pour que, comprenant pleinement l'amour de Dieu, on soit plus affamé de trouver absolument le plan de Dieu, qu'on ne trouve pas souvent, parce qu'on essaye trop d'affaires, on s'encombre de plein de bebelles. Mais être tellement rassuré dans qui il est, tellement rassuré dans son amour, pas par une émotion, par une compréhension, un connaître cet amour, que ça vienne nous faire entrer dans son plan, que lui nous amène dans son plan. J'avais dit dans un séminaire quelques années, j'ai arrêté de chercher le plan de Dieu. Ou arrêtez de chercher toujours la volonté de Dieu. Vous êtes, c'est curieux, il me semble qu'on devrait... Non, cherchez Dieu parce qu'en lui se trouve son plan et sa volonté pour vos vies. Donc, 1 Jean 4, versets 16 à 19, on termine vraiment ce passage-là, mais il y a quelque chose que Jean dit dans ça. J'ai découvert ça la semaine passée. Et nous avons connu. Encore, il est fatiguant avec le mot connaître. Connu. C'est pas nous avons senti ou ressenti l'amour de Dieu, nous avons connu. Ginosko, connaître, yada. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Là, attention. Là, je sais là, que. Les humanistes chrétiens vont humaniser le texte pour dire, tu sais, on va voir des fleurs là-dedans. Tu sais, c'est l'espèce de l'amour, ils vont le traduire en sentiment, en émotion. Puis ce qui est important, c'est d'aimer, puis c'est de pas juger. Tu sais, c'est comme au nom de, c'est de ne pas comprendre l'idée de l'amour de Dieu. L'amour ici dont Jean parle, c'est l'œuvre de Christ pour vous, pour moi. Jésus-Christ étant l'incarnation de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas des beaux sentiments, c'est ce que ça devrait donner. Mais si on ne prend pas le temps de comprendre ce qu'il dit ici, on transforme cet amour-là dans une forme d'amour humaniste. Et ça vient attaquer la vérité de l'Écriture ailleurs. On n'a plus qu'à juger, plus qu'à porter une opinion sur quelque chose. Tu dis, non, tu juges, tu ne peux pas juger. Tu ne comprends pas les textes où Jésus dit de ne point juger, mais là, comprenez-vous, c'est... On crée une confusion dans le discours de l'Écriture. Donc, Dieu est amour, dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et c'est le verset 17 qui est riche, qui est encore plus riche ici. C'est tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Moi, longtemps, cette phrase-là, je me disais, qu'une idée de ce qu'il est en train de dire là. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, bon, il doit parler de Jésus, le « il » pour Jésus, mettons, tel nous sommes. Et là, en y pensant, je dis, attends une minute, il est en train de dire quelque chose d'intéressant, là. Tel il est, Jésus. Comment il est, Jésus, maintenant, là? Glorifié. Tel il est, tel nous sommes, dans ce monde. Une phrase qui a l'air de rien dire, nous dit une affaire grosse de même. Plus que ça encore. Amenez vos bras, tout le monde, là-dessus. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait, mature. Téléos, mature, est parfait en nous. Afin de quoi? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, ce n'est pas une vague affective dont il est question qui nous donnerait de l'assurance. Tu sais, comme si, avant de mourir, maintenant, il me reste 3 jours à vivre, là, je m'a prié tellement, m'a aimé tout le monde, je vais haïr personne. Tu sais, je vais me mettre dans une condition affective tellement riche. Tu sais, je me prépare à aller rencontrer Jésus parce que je veux renforcer mon assurance. Mais non. Notre assurance est déjà parfaitement bâtie, parfaitement gagnée. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, c'est-à-dire en quoi? Dans le fait que tel il est, glorifié, tel nous sommes déjà. Ça revient encore à la déclaration de M. Kuhlman qui disait, c'est le déjà et le pas encore. Mais dans le déjà, la construction de mon corps glorifié est déjà une réalité pour Dieu. C'est déjà fait. Dans le déjà, le pas encore, c'est eschatologique. J'attends de mourir. Ben, j'attends, je suis pas pressé, là. Mais je sais qu'à ma mort, je vais entrer parfaitement dans une réalité qui était déjà là. Tel il est, tel nous sommes. Déjà, c'est en cela que l'amour, donc c'est l'amour de Christ est déjà mature, parfait en moi, parce que tel il est, tel je suis. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, mature ici, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Donc ici, là, on n'est pas dans une drill d'émotion, même s'il est question d'amour et de crainte. Ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que si on craint le jour de notre comparution devant le trône de Dieu, c'est qu'on n'a tout simplement pas saisi cette vérité-là, la vérité selon laquelle on a déjà en Jésus-Christ un corps glorifié. Et tout ça s'est rendu possible parce que Dieu, pour m'aimer, s'est fait homme. Dans un corps d'homme, il m'a aimé, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité avec un corps glorifié et il me donne ce corps glorifié maintenant. C'est-tu pas beau, ça? Amen. Merci, Père, de bénir abondamment, Seigneur, cette compréhension de ton amour, Seigneur, de que ce soit plus qu'une simple connaissance, mais que tu puisses également révéler ces choses dans nos cœurs, Seigneur, puisque de cette compréhension, cette révélation, découle notre relation avec toi, découle notre témoignage, découle également notre amour pour les autres. Tout vient de là, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir abondamment cette parole aujourd'hui. Merci de bénir ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui sont invités, conviés à la rencontre des nouveaux, vous pouvez venir maintenant chercher vos cabarets, monter en haut. On se rejoint dans 15-20 minutes. Merci.